Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort aujourd'hui. Je veux faire un petit propos sur quelque chose qui est arrivé hier pendant ma ligne ouverte sur Twitch. Alors, chaque mercredi à 21h, je fais une ligne ouverte qui a rapport beaucoup. La thématique, c'est très affaires, business, carrière. C'est un peu mon chapeau de gérant d'artiste avec des jeunes qui sont là. Puis ça marche vraiment. Chaque semaine, c'est vraiment trippant de voir ça. C'est bien trippant. Puis là, hier, ça appelait tout le temps. Il y avait tout le temps. C'est une ligne ouverte. Ça fait que il y a des personnages qui se rajoutent. Je vous en ai déjà parlé. Là, vous allez voir ça, twitch.com/MarcBoilard, ou bien vous faites MarcBoilard.com. Là, vous allez voir dans le menu là, ce truc-là. Puis, il y a quelqu'un qui m'a posé une question que je trouvais super intéressante, qui disait... C'est l'invité mystère qui est déguisé à chaque fois. Il vient poser sa question de la semaine. Puis il dit, écoute, il dit, parce que lui, il me disait que dans vraie vie, alors l'invité mystère, je sais c'est qui, mais je fais semblant, là, il y a un côté assez rigolo à cette affaire-là. Puis, donc, dans vraie vie, il envoie des CV pour travailler en communication. C'est un gars qui a fait son bac en com à l'Université Laval. Et puis, voilà, puis là, il me disait, est-ce que... Parce que moi, je conseillais d'envoyer des CV qui étaient hors de l'ordinaire. Puis il disait, si il me prend l'idée de me partir à mon compte à place, est-ce que j'approche les clients de la même façon? Est-ce que j'approche les clients de façon spectaculaire? J'ai fait bien attention. Puis là, ça, c'est mon avis. Là. Vous pouvez dire que vous avez vécu ça autrement. Mais mon avis, c'est le suivant. Quand tu veux te démarquer à l'emploi, tu gagnes à avoir quelque chose qui est un peu plus explosif que les compétiteurs, c'est-à-dire les autres chercheurs d'emploi. Et un employeur, même avec son cigare, sa cravate, le bonhomme bien straight qu'on l'a jamais vu rire de sa vie, il se voit pas de même lui-même. Il a pas le goût d'être un bonhomme straight, plate. Personne n'a le goût d'avoir cette étiquette-là. Donc, à quelque part, quand vous vous démarquez, c'est utile. Moi, je l'ai vécu en sortant de l'Université Laval. Je montais des spectacles d'humour sur lesquels il y avait Anctil et Morancy, entre autres. C'est de même qu'on s'est connus. Puis, mais à ce moment-là, moi, je savais même pas c'était quoi gérant d'artiste, puis je voulais travailler à Juste pour rire. Ça fait que j'ai écrit à Gilbert Rozon, puis j'avais écrit dans ma lettre de présentation que je faisais des spectacles d'humour déjà, que j'étais un gars qui organisait ça, que je voulais travailler à Juste pour rire, puis que j'allais l'appeler mercredi prochain, telle date, à 3h30. Puis je montrais ma lettre, puis tout le monde, incluant ma mère, disait « Voyons, c'est un peu trop raide, là, je vais vous appeler à telle heure. » Puis ben sais-tu quoi? Il m'avait dit après coup que ça y avait parlé au bout, parce qu'il trouvait que ça se démarquait de toutes les maudits CV pareils, puis les lettres que « Ah, vous savez, puis quel est votre défaut? » Je suis tellement perfectionniste. C'est arrêté, là. C'est que moi, je suis convaincu que quand vient le temps de se démarquer pour avoir une job, d'être un peu explosif, c'est un plus. Par contre, pas pareil avec un client. Et là, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est pas pareil avec un client pour la raison suivante. Il y a une très grosse différence, mais qui ne paraît pas, entre... quelqu'un qui cherche à prendre la meilleure décision possible, c'est-à-dire faire le meilleur choix, et quelqu'un qui ne veut pas se tromper. C'est pas le même processus. Puis un client qui est nouveau, donc à quelque part pour qui vous êtes un nouveau fournisseur, croyez-moi, dans l'écrasante majorité des cas, son premier souci, puis surtout si c'est une grosse entreprise, c'est une entreprise avec plusieurs employés, ça veut dire qu'il y a plein de levels pour décider, et c'est pas la recherche du meilleur fournisseur, c'est la peur de se tromper. Puis ça, là, j'en parle dans mon troisième livre qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». Puis c'est documenté à mort, ce que je vous dis. C'est dur de faire la différence, parce que c'est subtil, j'en conviens. C'est que c'est pas évident de comprendre, tu sais, que « Ah, ben ça, c'est un cas où il veut pas se tromper, puis ça, c'est un cas... » Mais à partir du moment où tu le sais, au moins tes antennes sont comme plus allumées. Tu fais comme « Hop, palaï! » C'est qui ce genre de client-là? Je suis devant qui, moi, là? Puis cette espèce de « je cherche la meilleure affaire versus je veux juste éviter la pire », ça distingue beaucoup les gens selon leur profil. Je vous en parle souvent, le profil « diminuer le risque tout le temps » veut prendre non pas la meilleure décision, mais la décision qui n'aura pas de conséquences négatives. C'est pas pareil. C'est fascinant de voir qu'une petite subtilité peut faire une grosse différence dans le choix final. Et il y a un test, je crois vous en avoir déjà parlé, le test du magasin de marmelade, qui prouve que le nombre idéal de choix qu'on présente à quelqu'un, c'est, je pense, si je m'en souviens bien, c'est entre 6 et 9. C'est-à-dire qu'il a été démontré qu'un test où est-ce qu'ils ont fait un faux magasin avec plein de marmelade. Puis ils faisaient rentrer du monde. Puis des fois, ben, ils mettaient 2 pots. Puis des fois, ils mettaient 50 pots. Puis ils disaient, allez choisir celle que vous voulez. Et au final, quand le monde sortait, ils faisaient un peu un genre de test. Puis ils leur posaient des questions, etc. Puis ils ont découvert que le nombre optimal, c'est entre, me semble que c'est entre 6 et 9. En un mot, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez en bas de 6 choix, vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez de choix. Donc là, vous avez peur de vous tromper en vous disant, je vais-tu prendre la bonne affaire à travers si peu de choix? C'est-à-dire que vous cherchez, mettons, dans un magasin d'espadrilles, puis il y en a plein, bien là, à quelque part, vous vous êtes rassuré. Mais s'il y en a trop, il y a un autre stress qui embarque, c'est le stress de faire le mauvais choix. Donc, en un mot, le premier stress, c'est « Hey, il n'y a pas assez de choix, donc j'ai peur que je vais acheter de quoi qui ne sera pas optimal. » Puis dans l'autre, c'est « Il y a trop de choix. » Fait que là, vous me gazez parce que tabarouette, si tu A, si tu B, si tu C, si tu D, etc. Donc, ultimement, ils ont réussi à mettre des nombres précis qui étaient, si ma mémoire est bonne, entre... Écoute, c'était 6 à 9 ou 9 à 12. Je suis assez certain de tout ça. C'était 6 à 9 ou 9 à 12. Ça veut dire que 15 choix, tu m'étourdis. Puis 4 choix, j'en ai pas assez. Ça fait que ça revient à dire qu'il y a effectivement des gens pour qui le profil, c'est pas prendre la meilleure décision, celle qui va fitter le mieux, qui va être optimale, c'est celle où je vais avoir l'impression que j'ai pas fait un mauvais choix. Et là, je vous fais une confidence. Moi, je travaille dans le milieu de l'automobile depuis 15 ans. Et c'est connu, je dis confidence, j'ai pas de confidence là, mais je veux dire, c'est juste que ça peut avoir l'air pas sexy, mais ça reste que c'est un constructeur automobile d'envergure, c'est Toyota, qui, je crois, si c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2 dans le monde. Puis les clients de Toyota, je vous le confirme, c'est des gens qui viennent acheter une Toyota, règle générale, parce qu'ils correspondent exactement au profil qui ne veut pas se tromper. Ils viennent pas chercher l'auto qui correspond le plus à ce qui leur tente, à l'utilisation qu'ils vont en faire, etc. Ils viennent chercher la fiabilité. L'auto avec laquelle ils n'auront pas de mauvaises surprises. C'est le critère numéro 1 d'un conducteur de Toyota. Pourquoi on peut savoir ça? Quand ils rentrent en concession. Quand ils rentrent des fois on dit le garage, là, c'est pas, le vrai terme c'est la concession. Ils sont tout le temps ultra documentés. Ils ont le protégez-vous dans une main. Ils ont un iPad avec toutes les fiches techniques des 2 ou 3 modèles qui les intéressent. Ils ont fait des recherches. Ils sont informés auprès de la CAA. C'est à côté. Tu ne revois pas ça, zéro les autres compagnies. C'est vraiment un acheteur qui lui... Ça fait que c'est très, très important quand vous êtes en processus de faire un choix. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être déménager, ça peut être... Il y a tout ça. Puis à la rigueur, c'est quoi le bon critère? Ben, c'est pas à moi de le dire. C'est celui qui vous ressemble. Si ça vous ressemble, puis si vous dites, moi, quand je fais des achats où je suis content, je me suis pas trompé, ben c'est parfait. Regardez, là, pendant que je vous parle, là, la musique joue sur YouTube, ma TV est allumée. C'est une tasse de café, parce que c'est toujours des trucs un peu jazz, etc., que je mets en fond d'ambiance, je vous l'ai déjà dit. Cette télé-là, c'est une erreur monumentale. Monumentale. C'est une TCL, c'est chinois, c'est au pouce carré, la télé la moins chère sur le marché, je pense. J'ai une 65 pouces qui n'a pas coûté... Je pense qu'elle a coûté 650$ avec taxes. C'est révoltant. Je suis allé les magasiner au Best Buy en arrière de chez nous. Je l'ai vu, j'ai comparé avec d'autres écrans, etc. J'ai fait, ouais, ça a l'air correct. Je l'ai finalement acheté sur Amazon. Mea culpa, en tout cas, je l'ai fait. C'est rare que je fasse ça, mais là, je l'ai fait. Et quand je l'ai allumé, j'ai fait « Quel écran cheap! » À comparer à une Sony qui m'aurait coûté 1000, pas 10 000. Ça fait que, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi que j'ai fait? Je suis allé trop rapidement. J'ai fait un choix qui était basé sur un critère poche et insuffisant. C'est-à-dire que pour moi, l'important, c'était le prix versus la grosseur de l'écran. Puis je me suis dit, c'est une 4K. 4K sont toutes pareilles devant Dieu. Eh hey boy! Hey, le processeur, le ci, le ça. Puis j'étais tout au courant de ça. Mais comme un innocent, j'ai mal fait ça. Puis depuis le jour 1 que j'ai allumé cette télé-là, puis c'est pas vrai que je vais la changer à cause de ça, ça reste une télé 4K, puis elle fait la job. Mais sérieusement, c'est vraiment pas la qualité d'image que... Mais je vous le dis, là, grave. Ça fait que c'est les critères de décision qui fait qu'on fait un bon ou un mauvais achat. Mais si mon critère, ça avait été de pas me tromper, de pas me tromper, de pas me tromper, c'est pas ça que j'aurais choisi. J'aurais pas dit, ah, moi, l'important, c'est que grosse TV, puis pas cher. C'était un critère de gars qui est allé trop vite. C'est souvent ça mon erreur, d'ailleurs. Ça fait que, moralité, c'est juste intéressant de voir qu'il y a une différence entre je vais vraiment prendre, faire des je vais appliquer des critères qui font que ça va être la meilleure décision par rapport à ce que je veux vraiment, comme produit, comme service, comme orientation, comme tout, ou je veux juste pas me tromper, qui fait qu'on a souvent des très bons choix, mais qui vont être des choix moches, qui vont être des choix plates, qui vont être des choix finalement où ce que... Et je termine avec ça parce que dans les mêmes études que j'avais faites concernant un peu l'affaire des marmalades, etc., ça disait que, par défaut, l'écrasante majorité des gens choisissent le statu quo. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre, je peux continuer dans le statu quo, acheter la même marque, garder la même job, garder la même blonde, ou aller vers du nouveau, même si le statu quo est poche, les gens habituellement choisissent l'alternative statu quo. Ça fait que ça revient beaucoup à la discussion du non puis du oui d'hier. Je vous laisse là-dessus. Salut!